Alors, bienvenue à la Grande Bibliothèque, messieurs Michel Venn, Jacques Beauchemin, Georges Leroux, mesdames Ariane Aymon, Tana Kontoyani, Karina Goma et distingués invités et chers amis, je vous souhaite bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente, Lynne Petitclerc de la Direction de la Programmation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est avec grand plaisir que nous recevons aujourd'hui ce deuxième Midi citoyen de cette saison. Le premier Midi citoyen, INM-BANQ, présentait en novembre dernier une table ronde dont le sujet était « Le Québec est-il en marche ou en panne? » avec M. Bernard Landry, M. Claude Bellan, Gilles Taillon, Mme Nancy Nipnam, et ce fut un franc succès, tant par la richesse des propos des panélistes que par le dynamisme de la participation du public, notamment par une période de questions fort intéressante. Si vous n'avez pas eu la chance d'y être présent, vous pouvez toujours l'entendre sur le portail de BANQ. Vous pouvez, en balado-diffusion, réécouter cette table ronde qui fut fort intéressante. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Ariane Aymon, journaliste bien connue et animatrice de cette table ronde. Merci.
Merci, Mme Petitclerc. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ça fait très plaisir de voir cette salle pleine de gens qui semblent bien alertes. C'est vrai que notre sujet d'aujourd'hui est plutôt dans l'actualité. Je veux vous dire d'abord combien nous sommes fiers de ce partenariat avec la Bibliothèque et Archives nationales. C'est un grand plaisir que j'ai maintenant de vous présenter une femme importante dans la société québécoise, la sociologue Céline Saint-Pierre, qui est membre du CA de l'Institut du Nouveau Monde, qui est membre même fondatrice, et qui va un petit peu mettre en contexte ce Midi citoyen et les deux autres qui vont suivre d'ici la mi-avril, parce que je dois aussi ajouter qu'elle est coprésidente du grand rendez-vous stratégique sur la culture que nous préparons déjà depuis plusieurs mois et pour lequel nous souhaitons que vous soyez tous et toutes là dans les prochains mois. Madame Saint-Pierre, c'est à vous.
Merci Ariane. Alors, je vais vous parler au nom de l'INM d'un grand rendez-vous sur la culture qui démarre presque aujourd'hui, je crois, avec la thématique qui va être abordée. Alors, l'hiver froid du Québec, l'INM vient le réchauffer en vous incitant à venir débattre d'un certain nombre de questions qui sont apparues au comité directeur, et je vous expliquerai un petit peu ce qu'est le comité directeur, notre démarche, comme des enjeux de fond pour penser le présent, mais aussi l'avenir de la culture québécoise. Alors, vous aurez eu à l'entrée de la salle un dépliant là qui vous annonce ce débat. Nous avons réuni, et c'est notre démarche à l'INM, vous savez, nous avons déjà organisé le rendez-vous sur l'économie, le rendez-vous sur la santé, de faire une rencontre aussi entre les experts, les chercheurs, les intellectuels et les citoyens. Et nous avons demandé à un comité directeur dont vous trouverez le nom dans les noms dans le dépliant de mettre sur la table par leur réflexion, leurs résultats de recherche, ce qui leur semblait être les défis, les enjeux du Québec pour penser la culture québécoise et surtout réfléchir sur ce que nous voulons qu'elle devienne. Donc, nous avons des grandes questions qui chapeautent des questions plus spécifiques qui seront soumises, qui seront débattues lors des Midis citoyens. Ce que nous vous soumettons comme question, c'est d'abord, que recouvre la culture québécoise? Quelles sont les composantes de la culture québécoise? Quelles sont les influences qui la traversent? On pense à la mondialisation, aux technologies de l'information et des communications. On pense aux cultures émergentes. On pense aussi à tout l'individualisme qui se développe dans les comportements des personnes. On pense à tout le débat autour de la place du religieux dans l'espace public. Alors, on demande quelles sont les influences qui la traversent. La deuxième question aussi, ou la deuxième finalité, c'est de penser l'avenir de la culture. Alors, comment entrevoir son avenir? Et autour de cela, quelles sont les démarches, les pistes d'action que nous devrions mettre en marche pour réaliser cette culture québécoise que nous entrevoyons et que nous voulons rêver? Et nous nous permettons des rêves à l'INM, nous voulons susciter votre créativité, votre imagination. Nous voulons déborder des stéréotypes, des clichés et faire appel à cette pensée citoyenne qui s'est révélée, se révèle toujours très créatrice. Pour cela, la formule, elle est très différente des colloques traditionnels et des conférences. Elle fait appel aux citoyens à travers les régions. Nous avons des rencontres régionales et une rencontre nationale. Nous vivons la thématique et nous la débattons sur 4 mois. Pourquoi? Parce que nous voulons donner la chance à vous tous et à vous toutes de réfléchir, de lire. Nous avons une bibliothèque virtuelle. Nous vous sollicitons pour la consulter. Nous aurons samedi un cahier du devoir, un cahier spécial qui traite de la thématique des différentes questions que nous traiterons dans les rencontres régionales et nationales. Et ce sera l'outil principal pour alimenter ce débat. Donc, à travers cette démarche, on veut vous inciter à la réflexion, à l'analyse, mais aussi à la prospective et à l'action. Et nous voulons, ces 4 finalités, nous voulons que vous les définissiez ou que vous les développiez à travers des cultures plus spécifiques. Le débat citoyen de ce midi initie, je crois, et ouvre à la première rencontre qui se déroulera dans 11 villes. Et la question que nous posons, c'est que voulons-nous de la culture québécoise? Est-ce qu'on doit rechercher la consolidation d'une culture commune? Où est-ce qu'on doit travailler à aménager la cohabitation d'une mosaïque d'identité? C'est la question qui coiffe les sous-questions que vous retrouverez ou les sous-thèmes dans votre programme, dans le programme. Ça, c'est la question centrale de la première rencontre. Le débat de ce midi ouvre à cela. La deuxième rencontre, c'est notre deuxième rencontre régionale et qui se passe là, à travers le Québec. Là, on veut voir les influences, analyser les influences sur la culture québécoise, notamment autour de la mondialisation, la diversité culturelle, des nouvelles pratiques culturelles, de la façon dont les groupes s'expriment à travers la culture, les pratiques émergentes, les rapports entre le public et l'offre de culture, les créateurs et les publics. Et aussi, regardez aussi les comportements des Québécois autour des pratiques culturelles. Et j'attire votre attention sur les travaux faits par l'Observatoire sur la culture. Nous vous référons à cela dans notre site Internet, où il y a eu des diagnostics des états de situation de plusieurs régions du Québec et des diagnostics qui sont maintenant disponibles. Vous pourrez vous en les consulter. Donc, les 2 rencontres régionales, réflexion dans les régions. Nous nous réunirons à la fin avril en rencontre nationale. Et la rencontre nationale qui se passera à Montréal fera appel et permettra de faire le bilan des diagnostics qui seront posés à travers les régions, de regarder les pistes d'action qui ont été recommandées et de se poser et de débattre de l'avenir de la culture québécoise. La question que le comité directeur vous envoie ou vous renvoie, la culture québécoise, selon vous, selon les diagnostics, les échanges que vous aurez eus, les pistes d'action que vous entrevoyez, est-ce qu'elle est en stagnation? Est-ce qu'elle est en redéfinition? Est-ce qu'elle est déjà en pleine maturité et qu'il faut penser son épanouissement? Et autour de cette question-là, on vous suggère, je dirais, une façon de penser cela à travers la question « Avons-nous des rêves collectifs? » Quant à son avenir, à ce que nous voulons qu'elle soit. Alors voilà un peu les rencontres, mais il y a un défi ici. Le défi de l'INM, c'est d'aller chercher une participation très importante. Je crois que la qualité des interventions est très importante au moment des délibérations, mais le nombre compte aussi, parce que notre engagement, c'est de soumettre vos recommandations et les pistes d'action aux décideurs publics pour influencer les politiques publiques. Évidemment, la crédibilité vient de la qualité des interventions, mais elle vient aussi du nombre. Alors, c'est la mission de l'INM et je vous invite et incite à vous inscrire, à en parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues pour les amener à ces rencontres et pour susciter leur intérêt pour ces grandes questions. Donc, je compte sur vous pour stimuler la participation, je compte sur votre participation, nous comptons là-dessus, et pour dégager une vision d'ensemble. Parce que c'est vrai qu'à travers les panels, à travers les débats qu'on entend à la télévision, dans les médias, on voit les questions un peu en saucissonnage. On les voit une après l'autre. L'enjeu, c'est de faire les liens entre cela. Et je vous invite à lire particulièrement le texte dans Le Devoir du comité directeur qui pose les enjeux d'ensemble et qui permettront de faire les liens. Alors, nous vous attendons pour ce rendez-vous. Nous comptons sur vous pour la préparation à ce rendez-vous, pour solliciter vos collègues et vos amis, vos familles, mais aussi pour vous inscrire. Alors, je vous souhaite un bon débat midi et à la prochaine, qui sera le 2 et le 3 février. Au revoir.
Merci beaucoup. Alors, avant de vous dire un petit peu comment ça se passe, je veux dire un bonjour bien senti à cette centaine de cégepiens qui viennent un peu partout au Québec et qui participent pour la première fois à l'école d'hiver de l'Institut du Nouveau Monde. Et je sais que ça a dû brasser pas mal et merci d'être là. Est-ce que je suis obligée de vous dire d'éteindre vos cellulaires? Je vais le faire quand même. OK, on va faire comme si on était au théâtre. Alors, c'est un petit peu déconcertant pour les gens qui vont s'adresser à vous. Tania, c'est un bon réflexe. Alors, je vous raconte un petit peu d'où on part pour ce premier midi citoyen autour de notre problématique qui coiffe, si vous voulez, notre grand rendez-vous stratégique sur la culture. Bon, je vous apprends rien en vous disant que notre culture est en ébullition et que notre société s'est passablement diversifiée et pluralisée depuis peu de temps, disons depuis 30 ans. Plusieurs l'ont vu, le disent, on apprend depuis 30 ans surtout dans les grandes villes comme Montréal, à se conjuguer et à vivre ensemble autrement, égaux et différents. Je vous rappelle qu'il y a 30 ans, le Québec a opté pour le pluralisme et l'interculturalisme qui est différent du multiculturalisme. Alors, on s'entend, c'est l'interculturalisme, son mot le dit, favorise les interactions entre les individus et les groupes et les cultures vivant les uns à côté des autres. Alors, ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui avec nos quatre invités, c'est un petit peu de manière différente, de dresser un peu un bilan de ces 30 ans, de ce choix pluraliste que nous avons fait collectivement, de ce choix d'ouverture. Qu'est-ce qui en ressort? Alors, comme Céline Saint-Pierre vous le disait, on va débattre, vous allez vous exprimer à la toute fin, mais il y a une chose qui est déjà certaine, on règle pas la question ce midi. Hein? Mais c'est le fun pour nous parce que ça veut dire que vous allez revenir au rendez-vous du 2-3 février et du 16-17 mars à l'UQAM. Je vous dis donc que ce débat, nous l'avions prévu depuis longtemps. C'est pas l'actualité qui nous a donné le goût que vous vous rencontiez et que nous nous rencontions aujourd'hui. L'INM veut contribuer dans tout ce qu'elle entreprend, dans tout ce qu'il entreprend à briser les tabous et les lieux communs qui trop souvent monopolisent et limitent les débats sur la question qui nous rassemble aujourd'hui. Le débat public actuel est lourdement marqué par une foule d'éléments disparates, certaines controverses bien sûr autour de la laïcité. Il y a ce sondage dont vous avez largement entendu parler, un peu bâclé, pour, selon plusieurs observateurs, les chiffres sont étonnants. Il y a de nombreux reportages sur des réalités d'ailleurs qui pourraient nous inspirer. Il y a des prises de parole diversifiées, emportées, mesurées sur toutes les déclinaisons de l'accommodement raisonnable. Et j'imagine que c'est un peu pour vous faire une tête que vous êtes ici aujourd'hui. Donc, l'INM souhaite toujours présenter un cadre posé pour réfléchir ensemble. Donc, la question d'aujourd'hui, comment le pluralisme culturel et religieux influence-t-il aujourd'hui la culture québécoise? Qu'est-ce qui est stimulant là-dedans? Qu'est-ce qui l'est moins? Ce qu'il faut avoir à l'œil? Ce qui est souhaitable de renforcer? Et toutes ces déclinaisons sont possibles. Je vous présente à nouveau mes quatre invités. À mon extrême gauche, Jacques Beauchemin, sociologue et professeur à l'UQAM. À ma petite gauche, Karina Goma, documentariste et journaliste. À ma droite, Tania Contoyani, comédienne et auteure. Et à ma grande droite, j'oserais jamais dire ça en parlant de vous, Monsieur Georges Leroux, philosophe et professeur à l'UQAM. Merci d'être là tous les quatre. Ils auront 7-8 minutes. Je suis terrible avec le temps, je m'entends vous le dire, je suis terrible.
J'ai avalé un chrono, paraît-il. Alors, je veux d'abord leur demander de quel point de vue ils vont me parler. Vont-tu me parler, nous parler? Est-ce que M. Beauchemin, vous, quel chapeau vous mettez aujourd'hui? Vous êtes le prof, le sociologue, le citoyen? Dites-moi ça en quelques secondes.
En public, je ne porte qu'un seul chapeau, je suis sociologue. C'est juste triste, c'est comme ça.
Mais non, ben, si vous le portez bien, moi, j'ai rien contre ça. Madame Gaumont?
Ben, je suis une citoyenne d'origine multiculturelle, moi aussi, puis je suis une documentariste qui travaille sur ce sujet-là précisément.
Oui, alors peut-être qu'on peut déjà le dire, Karina Gaumont est en train de tourner un documentaire sur un CLSC ou en tout cas un quartier qui s'appelle Parc Extension à Montréal, où est-ce qu'elle suit un certain nombre de personnages. Elle va vous raconter ça mieux que moi, mais simplement pour que vous sachiez de quoi elle parle. Tania, vous me parlez avec quel chapeau? Vous avez le droit de les multiplier.
Oui, le chapeau de citoyenne québécoise, mais qui a quand même choisi les arts pour interagir puis transformer son monde.
D'accord. Et Monsieur Leroux?
Je vais parler comme philosophe. Alors, vous m'avez placé en dernier, c'est un rôle qui me convient.
Tiens. Ben, oui, c'est pas tout à fait un hasard quand même. Alors, on va commencer avec le sociologue, mesdames, messieurs. Monsieur Beauchemin, voilà, comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Quels sont les grands enjeux actuellement autour de ce pluralisme culturel et religieux qui influence notre culture désormais? Vous avez 7 minutes.
Je voudrais d'abord vous dire le plaisir que j'ai d'être avec vous aujourd'hui, même si la question qui nous est soumise est pas facile à débattre. Vous avez vu, comme moi, de quelle manière le débat s'est engagé depuis quelques jours dans l'espace public autour de ces questions d'accommodement raisonnable, de diversité, de droit de la majorité, de ce qu'on voudra. Débat qui est pas toujours bien mené, mais je crois que vous serez les premiers peut-être à en convenir plus tard aujourd'hui. Je vais, moi, prendre le taureau par les cornes et aborder directement la question des rapports majorité-minorité, puisque c'est en grande partie autour de ça que tournent plus ou moins clairement les discussions des derniers jours. Ce que je voudrais d'abord essayer de montrer en 3 minutes, ce sont les déterminations sociologiques qui font en sorte qu'aujourd'hui se pose la question des rapports entre majorité et minorité, et plus exactement les raisons sociologiques pour lesquelles ces rapports-là sont devenus problématiques. Et j'aimerais finalement, tantôt, dans quelques 5 minutes, essayer de voir ce qu'on peut concevoir comme étant. Et je le dis en termes polémiques, ça reprend un petit peu ce qu'on a entendu depuis quelques jours. Comment on peut entrevoir les droits de la majorité et ce que j'appellerais aussi les devoirs de la majorité? La majorité, d'abord je la qualifie en 3 secondes et demie pour être bien certain qu'on parle de la même chose. Dans le cas du Québec, il s'agit de cette vieille formation, ce vieux collectif de qu'on peut appeler de diverses manières, de franco-québécois, de canadiens français de souche et compagnons de route, nombreux compagnons de route qui se sont, au fil des années, intégrés à cette collectivité-là de toutes les manières, comme vous le savez. On a une espèce de conception donc spontanée de cette majorité-là. On pourra discuter, si vous voulez, plus tard, de ce qui la constitue concrètement. Bon, alors, pourquoi la question de la majorité et de ses rapports aux minorités est-elle devenue problématique? Eh bien, pour une raison à la fois simple et complexe qui est la suivante, le Québec, comme la plupart des sociétés modernes avancées, s'est réinventé depuis 30 ou 40 ans comme société pluraliste. C'est un fait sociologique, c'est un fait, comment dire, éthique aussi. Sociologique, la diversité sociale, elle est devant nous, à tout le moins pour nous, Montréalais. Nous la vivons. C'est un fait social. C'est un fait également éthique au sens où cette grande diversité a engendré un pluralisme des visions du monde, des façons de faire, des façons d'être en société. Ce qui est normal, c'est un fait. Ce pluralisme-là, il appelle naturellement son aménagement. Comment faire pour vivre ensemble dans une société qui se réinvente sous le jour du pluralisme? Eh bien là, il y a au moins, si vous voulez, deux dimensions, deux outils qui permettent d'aménager ce pluralisme-là. Il y a des outils d'abord juridiques. Nous avons au Québec, comme au Canada, des chartes de droit qui servent à délimiter les droits des uns et des autres. Nous avons des dispositifs juridiques qui accompagnent ces chartes, par exemple, l'accommodement raisonnable. Nous aurons éventuellement une politique québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination. Ce sont des outils juridiques qui encadrent ou qui régulent, si vous voulez, ce pluralisme-là. Et puis, il y a cette autre dimension sur laquelle je vais insister, qui est la dimension éthique. Une société pluraliste comme la nôtre se donne, j'allais dire spontanément, une éthique sociale adaptée à ce pluralisme-là. C'est la raison pour laquelle on a vu fleurir au Québec des valeurs dont on ne voit pas toujours à quel point elles sont, j'allais dire, nouvelles. L'idée de respect de la différence, d'ouverture à l'autre, de tolérance, d'égalité radicale de tous avec tous. Ce sont des idées qui correspondent directement à la réalité d'une société pluraliste. Il faut s'ouvrir à la différence et accueillir l'autre dans ce qu'il est, dans le régime de l'égalité. Il n'y a pas d'identité dans notre société qui, en principe, vaut plus qu'une autre. Ça, c'est l'éthique sociale qui accompagne le pluralisme. Évidemment, le problème que ça soulève, je l'ai évoqué dès le début, c'est le fait que la majorité est questionnée dans sa légitimité à affirmer sa culture, une histoire, à se poser comme sujet collectif. Parce que, évidemment, elle est questionnée, cette majorité. Pourquoi s'affirmerait-elle alors que se trouve devant elle et à côté d'elle un ensemble de collectivités qui, ma foi, prétendent faire partie de la société au même titre, contribuer, et voudraient bien voir aussi leur singularité respectée. Alors, on peut essayer de voir quels sont, dans ce contexte-là, les droits et les devoirs de la dite majorité. Je dirais de manière d'abord un peu carrée, parce qu'il me reste 2 minutes, qu'en toute société, une majorité a certainement, comment dire, le droit de vouloir s'affirmer comme telle, avec un ensemble de valeurs, avec un héritage que l'histoire lui a légué. Mais je pense que, et c'est plus important, que une majorité dans une société a le devoir de proposer ou de porter un monde commun, une représentation du monde commun, un arrière-plan sur lequel pourront ensuite s'intégrer tous ceux qui viennent se joindre à cette société-là. Qu'est-ce que c'est qu'un arrière-plan, qu'un monde commun? C'est le rassemblement de valeurs, de projets, d'utopies à poursuivre, valeurs, projets et utopies, lesquels sont déposés ou portés ou trouvent sens dans une histoire. Ça veut dire qu'une majorité peut légitimement vouloir défendre des valeurs et un projet et peut légitimement asseoir ce projet-là, l'installer dans son histoire, histoire à laquelle elle convie tous ceux qui veulent s'y intégrer. L'histoire est un train en marche. On n'est pas obligé d'avoir été dans le train au moment de son départ. On peut le prendre en marche, sans aucun problème, et au même titre que tous ceux qui sont déjà à bord. Une majorité a donc le devoir moral de profiler, de dessiner un espace à l'intérieur duquel les pratiques singulières, les gestes des uns et des autres, les préférences vont trouver un sens global qui va dépasser les particularités, les singularités, qui va rassembler donc en un tout signifiant l'ensemble des différences. Alors, on a beaucoup parlé ces derniers temps, ces derniers jours, des droits de la majorité, mais peut-être pas de la meilleure façon. une façon agressive, hein, de dire, au fond, la majorité a des droits. Il y a une façon parfaitement positive de le faire, en rappelant le fait que, précisément, une société ne peut pas se construire autrement que dans un espace de culture, que dans un rapport à l'histoire et que dans la poursuite de projets, donc autour de raisons communes. Et c'est le principe à partir duquel on peut imaginer l'intégration ou l'aménagement d'intérêts identitaires différents. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Impressionné par votre sens du timing quand même. Et c'était passionnant. Madame Goma, c'est à vous. Donc, quelle observation faites-vous de ce bouillonnement de pluralisme culturel et ethnique que vous regardez, et religieux, que vous regardez le nez beaucoup dedans, à Parc Extension?
Oui, ben c'est évidemment un sujet qui me tient à cœur personnellement parce que je suis fille d'immigrants. Mon père est égyptien, musulman, ma mère québécoise, catholique. J'ai été élevée dans la religion catholique, mais avec des liens très, très forts avec ma culture égyptienne, fait des séjours en Égypte, appris la langue. Donc, personnellement, ça me touche beaucoup, ce qui agite notre monde en ce moment, professionnellement aussi, parce que deux de mes sujets de prédilection ces dernières années ont été, d'une part, un projet sur l'arabophobie, donc notre rapport à l'autre, le rôle de repoussoir que peut jouer le Moyen-Orient et toutes les craintes, les préjugés que ça fait surgir. Et d'autre part, un projet dans lequel je suis plongée en ce moment, dans Parc Extension, donc un des quartiers les plus multiethniques de Montréal, autour du CLSC, qui est vraiment un lieu bon qui a fait la une récemment dans le cadre de tous ces débats sur les accommodements raisonnables, parce que peut-être l'avez-vous lu, des groupes prénataux de femmes, donc qui préparent des grossesses, était exclusivement féminin. Donc, on a, dans la lignée de tout ce qui a fait réagir, on a parlé de ces groupes-là en disant, en fait, un père s'était senti discriminé parce qu'il n'avait pas accès à ces groupes-là. Ces groupes-là, je les fréquente depuis 2 ans, chaque semaine, donc je les connais bien. Autant tous les autres débats, je les suivais d'un peu plus loin. Celui-là, je l'ai vécu en étant à l'intérieur. Bref, tout ça m'occupe, me préoccupe. Comme documentariste, je suis beaucoup confrontée à ça, à la nécessité de s'intégrer dans un monde tout en conservant ses propres valeurs. Les habitants de Parquex, les nouveaux arrivants, sont confrontés à ça aussi. Donc, s'intégrer dans une société, préserver leur identité, et les travailleurs de Parc Extension qui reçoivent ces multiples communautés sont aussi confrontés à ce défi-là. Donc, je pense que c'est assez représentatif de ce à quoi on est confronté individuellement, mais collectivement comme société québécoise. Donc, c'est un peu de ça dont j'ai envie de vous parler. Vous parler ensuite de ce que j'ai constaté sur le terrain comme principaux écueils qui se trouvent sur le chemin d'une meilleure compréhension puis d'une meilleure manière de vivre ensemble. Voilà. Donc, je vous ai parlé de Parquex, de mon parcours de documentariste. Et en fait, les deux principaux défis que j'ai rencontrés, dont on m'a parlé, que j'ai vécu, c'est d'une part de la nécessité, et elle est là, de combattre les préjugés, de combattre l'intolérance, de combattre la xénophobie. Et là, il faut évidemment être très délicat avec les mots qu'on utilise un peu à tort et à travers ces derniers jours. Mais il y a de ça aussi, et je pense que les chiffres là ont été utilisés d'une bien drôle de manière, mais reste que sur le fond, tous les immigrants sont confrontés à des préjugés, à une manière d'être perçu qu'on doit... auquel on doit faire face, et donc il faut lutter contre ça. Et d'une main, donc, il faut lutter contre les préjugés, de l'autre, il faut dénoncer et lutter contre la montée des orthodoxies religieuses. Et là, on parle de toutes les religions, parce que du créationnisme qu'on voit chez nos voisins, mais qui se rapproche dangereusement d'ici, à évidemment tous les cas dont on entend parler souvent, il y a... des gens qui ont un agenda très important, qui instrumentalise la religion pour faire avancer ces idées-là. Alors, je pense que ces deux défis sont à mener de front, à la fois combattre les préjugés et combattre la montée des orthodoxies religieuses. Et je pense que l'objectif est le même dans tous les cas, c'est-à-dire d'accepter l'autre dans ce qu'il est. Et je pense que les principales difficultés auxquelles on est confronté dans ce chemin-là qu'on est en train de vivre en ce moment, bon, la première, c'est une ignorance, en fait, et je dirais qu'elle est de moins en moins là parce qu'on en parle de plus en plus, mais en même temps, ça nous amène souvent à adopter une vision tronquée des religions. Et je vais parler de l'islam parce que c'est probablement celle avec laquelle je suis le plus familière. Il y a certains leaders des communautés culturelles qui s'abrogent le droit de parler au nom d'une communauté, qui en font un bloc monolithique, réuni autour d'objectifs d'intérêt commun, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus mitigé que ça. Et dans chaque communauté, les avis sont partagés. Par rapport au voile, c'est discuté dans la communauté musulmane, par rapport au kirpan, par rapport à tout un tas de sujets. Et l'erreur que l'on fait souvent, c'est de prendre pour du cash, si vous permettez l'expression, ce que nous disent certains leaders de la communauté, et d'accepter donc de s'engager sur un chemin sur la base de ça. La rectitude politique, l'espèce de relativisme culturel qui nous amène souvent à tolérer l'intolérable, c'est aussi un danger que l'on rencontre. Il y a d'une part la prudence nécessaire, l'ouverture et l'inaction paralysante qui fait que l'on accepte, comme je disais, l'inacceptable. En fait, la liberté d'expression religieuse est fondamentale, mais elle ne doit jamais servir à porter atteinte à la dignité des individus, de créer deux classes de citoyens sous prétexte qu'on accommode les demandes de nouveaux arrivants. Ce n'est certainement pas une solution et une marque de respect, au contraire. La pente glissante du compromis, qui est un peu dans la même veine, ou en acceptant peu à peu, par exemple, les symboles religieux à l'école, au travail, dans l'espace public, c'est de plus en plus difficile de ne pas céder aux autres revendications qui les accompagnent, bon, locaux de prière, etc., des revendications qui, en fait, souvent ne sont pas acceptées dans les pays d'origine. Et c'est là où on en donne plus que le client en demande. Parce que il faut pas l'oublier, dans la lutte contre la montée des orthodoxies religieuses, le champ de bataille privilégié des fondamentalistes, ce sont justement les écoles, les lieux de travail, les hôpitaux, les tribunaux, et c'est ce qu'on constate sur le terrain, et c'est ce qu'on a constaté dans un certain nombre de pays. Et finalement, c'est la tentation de confondre religion et héritage culturel. Et ça, c'est un danger quand, dans ce débat-là, on se met à remettre en cause. On parlait de culture québécoise, on parle d'arracher la croix du Mont-Royal ou de remettre en question Noël. Je pense qu'on mélange vraiment deux choses. Il y a d'une part un héritage culturel qu'il est de notre devoir de transmettre aux nouveaux arrivants, et d'autre part, il y a ce qui pour certains est important, qui serait une laïcisation de l'espace public. C'est pas encore terminé, mais c'est un travail qui se fait, et ça ne signifie pour moi en rien de renoncer à ce que l'on est et ce que l'on doit transmettre à ceux qui arrivent une fois de plus. Donc, je vous dirais en conclusion que je suis à la fois inquiète, un peu préoccupée par la manière dont le débat s'engage, parce que il s'engage pas de la meilleure des manières, parce qu'il est souvent enflammé, tenu de manière sensationnaliste, où les mots perdent un peu de leur sens. D'autre part, je suis rassurée parce qu'on ne peut pas faire l'économie d'un débat de fond sur ce sujet-là qui est fondamental. Et tout ce que j'espère, c'est que ce débat-là se fera de manière raisonnable, dans le respect, l'écoute des doléances des uns et des autres, parce que c'est la seule manière qu'on aura de se comprendre, de se connaître et de s'entendre sur une manière de vivre ensemble.
Merci beaucoup. Alors, Tania Kontoyani, elle m'a dit tout à l'heure, moi, je suis une grecque de Québec. Avouez qu'on n'en rencontre pas tellement. Moi, je suis une fille de Québec. Mais j'étais partie, j'imagine, quand vous êtes... Enfin, je sais pas, là. Je vous dirai pas tout. Alors, Tania, comment observez-vous ce bouillonnement actuel et quelles sont vos réflexions sur cette influence?
Ma première réflexion qui me hante depuis longtemps, parce que, évidemment, la culture, c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup penchée dans les dernières années, c'est quel défi de taille nous attend, nous, les Québécois, habitants du territoire du Québec? Je suis une grecque de Québec, effectivement, je suis complètement québécoise dans mes tripes, je me sens vraiment issue de la culture québécoise, je parle québécois, je pense québécois, et il suffit que je retourne au pays d'origine de mes parents en Grèce pour me rendre compte que je suis vraiment totalement québécoise, et que même eux, même si mon grec est parfait, me regardent des fois et me disent « mais... » comment tu penses, toi? Tu penses pas comme nous. C'est pas, il suffit de vivre quelques années au Québec. Puis je pense que c'est pour ça que les récents sondages nous montrent une proportion à peu près égale entre ce qu'ils appellent les communautés. D'ailleurs, je me suis demandé tout le long de ces sondages, moi, si j'avais répondu, est-ce que je serais considérée communauté ou québécoise? Je le sais pas. Et je pense qu'on l'ignore tous un peu. La proportion est égale parce qu'il suffit de quelques temps au Québec pour partager certaines valeurs communes, ce qui forme le tronc commun finalement, puis qui nous amène comme peuple à envisager l'avenir, à avoir des aspirations pour l'avenir, puis à se définir. Cette petite introduction de grecque de Québec est en fait, je dirais que c'est Le plus grand défi qui nous attend, c'est que quand on regarde l'état actuel du monde, il se passe des choses un peu contradictoires. D'un côté, j'entends l'UNESCO, l'ONU, en fait, j'entends toute la préservation importante des différentes cultures, comment on tente de reconnaître ça comme un droit de l'intégrité de la personne, qu'elle puisse continuer sa culture, sa langue, tout ça. C'est parfait, toutes les cultures sont égales en dignité, et ça, je l'admets d'emblée. D'un autre côté, ce qu'on constate, c'est que malgré ça, c'est les cultures qui divisent actuellement dans le monde. C'est les conflits culturels et religieux en apparence, parce qu'on sait qu'en dessous, il y a toujours comme la religion qui a supplanté toutes les autres, qui est celle de l'argent. Maintenant, le tronc commun de tous, ce n'est plus les religions, même dans les pays. Il y a très peu de pays. Je pense que 10% des pays qui peuvent, des peuples qui peuvent se dire oui, on partage aussi une religion. Maintenant, c'est plus le cas à peu près nulle part. Mais il y a quand même l'argent qui reste là. Alors, quand je me dis, je cherche une façon de me dire non, la culture unit le peuple et donc il faut trouver qu'est-ce qui nous unit pour envisager l'avenir. D'un autre côté, je me rends compte que la juxtaposition des cultures nous divise et que même si ici les problèmes sont pas encore explosifs, ben ils le sont ailleurs et on le voit parce qu'on a le luxe de l'information de plusieurs sources. Ici au Québec, on a le luxe de l'éducation, on a plusieurs luxes qui nous amènent à réfléchir. Et c'est peut-être le luxe que nous assumons le moins en dehors de l'Institut du Nouveau Monde. Et c'est là le défi, je dirais presque historique ou social, ou qui nous attend, c'est que nous avons la chance à quelques 7-8 millions de personnes qui envisageons le multiculturalisme différent en ayant rectifié le tir puis en parlant d'interculturalisme par rapport à, je dirais, au Canada, aux États-Unis ou encore quand même, c'est la mosaïque qu'on constate, donc c'est vraiment l'isolement des cultures et je trouve que ça commence étrangement à ressembler à du diviser pour mieux régner. Et oui, l'égalité en dignité des cultures, oui, tout ce que ça nous apporte d'enrichissement, Dans l'interculturalisme, on en a une belle preuve. Et je crois que le partage doit être égal en responsabilité, c'est-à-dire que comme culture hôte, nous avons la responsabilité de l'intégration, du partage de nos valeurs, la conviction que ces nouvelles valeurs récentes, là, j'entends égalité des droits et libertés de la personne qui sont respectées par nos chartes et canadiennes et québécoises, égalité des hommes et des femmes, donc qui en découle, laïcité, ça c'est des acquis récents. On est une identité un peu adolescente, hein? On est en train de forger notre identité et toute influence extérieure peut tout à coup nous sculpter à sa manière si on n'est pas assis dans nos convictions sans être immuable, mais au moins avoir une certitude que non, ça c'est les avancées desquelles on est fier et qu'on peut facilement partager avec des gens. Je m'égare un peu. Je tiens un discours très émotionnel, alors j'attrape toutes les idées qui passent puis qui cogitent dans mon esprit depuis ces dernières années. Alors je m'en excuse si des fois vous perdez le fil. Donc, j'en étais à l'interculturalisme où nous, comme culture haute, nous avons la responsabilité de l'intégration, de l'éducation, de la transmission de nos valeurs acquises récemment, mais aussi les nouveaux arrivants et les différentes cultures ont la responsabilité de partager et d'enrichir et d'essayer de trouver ce qui les fait porter espoir. Donc, à 7-8 millions, comme je disais tout à l'heure, il est encore possible de se concerter, de s'asseoir autour de la même table, d'envisager l'avenir, de se dire, bon, nous, notre démarche est, dans le monde actuel, de prouver que la cohabitation harmonieuse est possible. Les grands problèmes n'ont pas encore frappé à notre porte. C'est là le plus grand défi. Évidemment, on disait tout à l'heure, c'est un peu hasard qu'on se retrouve dans ce discours enflammé des récents jours. Les médias sont vraiment ensevelis sous les sondages, les accommodements raisonnables. La coexistence est-elle possible? Qu'est-ce qu'on devient comme Québécois? Dans 2 semaines, peut-être 6 mois maximum, ça ne sera plus un débat sexy dans les médias. On n'entendra plus parler comme plusieurs autres choses meurent dans les médias avant même que ce soit qu'on ait fait une simple approche de solution. On le voit dans les guerres de toute façon qui durent depuis longtemps. Ça explose dans nos journaux, dans nos médias pendant quelques jours, puis ensuite c'est terminé alors que les gens sont encore dans les camps de réfugiés, sont encore sans eau potable, sont encore aux prises avec les bombardements. Bon. Ça, c'est notre responsabilité, que ce débat-là ne finisse pas dans 2 semaines, que la solution ne soit pas trouvée dans 2 semaines, mais qu'on le continue, qu'on continue à se fréquenter, à se connaître véritablement, à prendre nos responsabilités vis-à-vis notre langue commune, vis-à-vis nos valeurs communes, démocratiques, de droit, de liberté, de paix, et que toutes les voix s'y mélangent, pas seulement les experts, pas seulement les journalistes, mais le droit, oui, les citoyens, comme vous et moi, les artistes, les intellectuels, les penseurs, nos penseurs, et qu'on lise, comme disait si bien Madame tantôt, on a ce luxe-là de pouvoir s'éduquer soi-même en ce moment, d'aller chercher tous les courants à travers le monde et d'essayer à la longue d'être ici une source d'une nouvelle mentalité, de la voir émerger et d'en inspirer, si possible, le monde entier.
Bravo, très bien.
C'est pas mal beau tout ça. Merci encore une fois. Là, il reste que M. Leroux qui a la grande responsabilité de tenir son temps. Il m'a dit tout à l'heure, ça m'est déjà arrivé de parler 30 minutes, mais j'avais oublié, c'était pas de la mauvaise volonté. J'ai dit, moi, je vais vous le rappeler. pas de 30 minutes même pour vous, mais je suis sûre que ça va être passionnant. Monsieur non, Leroux, c'est à vous.
Je vais tenir le temps que vous allez m'imposer, qui est déjà prévu. Je veux tenter avec vous de répondre à la question qui nous a été posée, comment le pluralisme affecte notre culture. Et les mots qui me sont venus à l'esprit quand j'ai lu la question et que j'ai tenté d'y réfléchir, c'est érosion, mutation, transformation, en fait des mots très dynamiques. Il y a beaucoup de mouvements, ça bouge énormément. En même temps, je me sens très près de ce qu'ont dit les personnes qui ont parlé avant moi, c'est-à-dire la nécessité de quelque chose qui nous est commun et qui va subsister dans ce maelstrom, en quelque sorte, dans lequel on se trouve plongé, qui est en fait le résultat de beaucoup de facteurs qu'on ne contrôle pas. Fernand Dumont, son dernier livre, Raison commune, dit tout l'enjeu du débat. Est-ce qu'on a des raisons communes, en d'autres mots, d'exister ensemble? Et donc, j'aimerais répondre à la question de la manière suivante. D'abord, très rapidement, revenir sur la distinction de Fernand Dumont, qui distinguait une culture première et une culture seconde, pour tenter de montrer que cette distinction, maintenant, n'est plus tout à fait satisfaisante et qu'il faudrait peut-être la compléter. Et ensuite, très rapidement, je présenterai la manière dont les registres de culture que je vais distinguer sont affectés par le pluralisme. Alors, premier point, donc, Dumont disait culture première. On est tous d'accord, on est tous plongés dans une culture première, on vit dedans, on est dedans. C'est nos appartenances de base, c'est ce qui fait une majorité, comme l'a dit Jacques tout à l'heure. C'est les traditions, c'est les modes de vie, c'est les valeurs tout à fait fondamentales du groupe d'origine, c'est les croyances aussi. Donc, ça, c'est notre culture première. C'est ce dans quoi on est quand on n'y réfléchit pas trop et qui fait qu'on est ce qu'on est spontanément et qu'on vit comme on vit. Et Dumont disait, c'est pas tout. Il y a la culture seconde, c'est-à-dire il y a la réflexion sur la culture première qui est faite d'œuvres, de représentations, les arts, la littérature, les idées, les journaux, le débat public, en fait, tout ce qui intervient sur la première culture. Il appelait ça culture seconde. Et il voyait un moyen de tenter d'universaliser un certain nombre de valeurs en réfléchissant sur nos modes de vie. À mon avis, dans le moment, ces deux cultures, autant la première que la seconde, sont entrées dans une phase, on pourrait dire, de complète turbulence. Véritablement, il y a une perte d'identité complète. Les repères ne sont plus communs. Et pas seulement à cause de l'immigration. Ce serait une très, 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 très courte vue que de croire que nous nous modifions parce que tout d'un coup, il y a des immigrants. Voyons donc. Il y en a toujours eu, premièrement. Deuxièmement, nous nous modifions parce que nous évoluons, nous nous transformons. La loi de la vie, c'est de se transformer. La technique nous transforme. Et la technique vient pas de l'immigration. Plein de facteurs nous transforment. La sécularisation nous transforme. Le fait que les populations n'investissent plus l'autorité divine est quelque chose qui transforme tous nos comportements, y compris donc nos modes de vie d'une part, nos rites, le passage vers la mort, tout est modifié. Alors, je pense qu'il faut ajouter quelque chose d'autre. Si quelque chose doit nous être commun, à mon avis, ça ne surgira pas de la culture première qui est bouleversée, qui subit des transformations constantes. Ça ne surgira pas non plus de la culture seconde, qui est elle aussi en mutation, et je vais dire pourquoi dans un moment. Ça devrait surgir d'une troisième culture que nous sommes en train de porter, qui a été tout à fait bien ciblée par les intervenants, c'est la culture politique. C'est-à-dire, c'est l'idée que nous avons un noyau commun formulé dans nos lois, dans nos chartes, mais dans quelque chose de plus que le philosophe Habermas appelle le savoir moral d'une société, c'est-à-dire les choses qui sont pour nous des certitudes et qui sont elles aussi en évolution, mais moins en évolution que d'autres, parce que leur évolution est en quelque sorte plus lente. Alors, comment la culture première est affectée par le pluralisme? Ça, il n'y a pas besoin de faire de vagues circonvolutions autour du phénomène. Le phénomène est massif. C'est la mondialisation qui touche nos modes de vie. Toute notre existence, dans ce qu'elle a de plus concret, est bouleversée par des formes nouvelles. Nous sommes constamment exposés dans les médias par des objets de désir, en quelque sorte, qui modifient ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut devenir aussi. On cherche à être autre chose que la petite chose qu'on est en essence, si j'ose dire. Et donc, il est plus possible de se replier sur les modèles que nous fournissaient les sociétés traditionnelles. Et donc, on observe même dans les sociétés post-industrielles comme la nôtre, deux types de phénomènes de réaction au pluralisme. Vous avez des réactions de repli vers la tradition qui caractérise très souvent aussi les couches d'immigration qui, parce qu'elles doivent affronter le défi de l'immigration, ont une tentation dans un premier moment du repli identitaire vers leur valise, en quelque sorte, ce qu'elles ont apporté avec elles en venant ici. Les sociologues disent que l'immigration ouvre ses valises seulement à la deuxième génération. Pourquoi faire? Pour les vider, bien sûr. Alors, cette question-là est assez intéressante, je trouve, parce que ça montre que nous ne sommes pas seuls. Ce que les immigrants nous apportent, cette sorte d'instabilité, de vulnérabilité, c'est quelque chose que nous vivrions de toute façon, parce qu'il n'est pas question, nous ne pouvons pas vivre dans les traditions qui nous ont été léguées. Il n'y aurait pas un immigrant à Montréal, est-ce que vous voudriez vivre dans le monde de Duplessis? Non, pas du tout. Vous voudriez vivre avec Mgr Ouellet à Québec, excusez-moi de le dire, non. On retournerait pas vers ce monde-là. On n'en veut pas. Alors, donc, il y a quelque chose qui bouge et la manière dont ça va se recomposer, c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir. Sur le plan de la culture seconde, alors là, évidemment, il y aurait énormément à dire parce que le monde dans lequel moi j'ai grandi est plus proche, je le dis toujours, de l'éducation des princes de la Renaissance que celui de mes enfants. Mes enfants sont dans la pleine démocratie, j'en ai trois. Ils ne connaissent pas la différence entre la culture d'élite et la culture populaire et surtout, ils n'acceptent pas ce que moi j'acceptais spontanément, le privilège de la culture d'élite sur la culture populaire. Ils ont une culture qui circule complètement comme un indicateur graphique dans tous les domaines où il y a du sens. Et donc, ça, c'est quelque chose que nous, on faisait pas. On était élevés dans le mépris de la culture populaire. Alors, sur le plan donc de la culture seconde, là aussi, il y a une recomposition complète. Personne n'a les mêmes références. Personne n'a la même bibliothèque. Moi, quand j'étais jeune, on s'attendait des étudiants à l'université, on se rencontrait, on avait tous lu le même livre. Et on était contents de ça. On lisait La Chute d'Albert Camus, on lisait Jean-Paul Sartre, et puis on lisait le dernier numéro de la revue Parti pris, ça s'arrête là. Aujourd'hui, mais c'est incroyable ce que les jeunes lisent. C'est faramineux. Les étudiants sont incroyables d'invention, de recherche. Leur culture seconde, dit autrement, est un répertoire qui ne ressemble à aucun autre, et les compositions qui permettraient des identités communes sont des choses qui sont à proprement parler inaccessibles a priori. Qu'est-ce qui reste? Il reste la culture politique. C'est là où je crois nous avons le plus de possibilités d'une culture partagée. On peut s'accommoder d'une culture première où il y a beaucoup de différences et de diversité. On peut s'accommoder d'une culture seconde où il y a énormément de diffraction, d'érosion, de saturation, de toutes sortes de phénomènes, mais on peut pas s'accommoder d'une culture politique où nous serions tous différents. Il faut donc une culture politique où nous avons une identité, des raisons communes, et dans ces raisons communes, qu'est-ce qu'on peut tenter d'identifier? J'ai cherché à voir ce que les sociologues nous disent là-dessus. Par exemple, j'ai lu les travaux de Bernard Lahire, que vous connaissez peut-être, un sociologue assez fin sur ces questions-là. Quelqu'un qui nous dit, en gros, que pour transmettre des valeurs communes, aujourd'hui, il faut une intervention, je dirais, politique. C'est-à-dire qu'on peut pas laisser ça au hasard. Il faut qu'une société prenne une décision par rapport à ces valeurs communes. On est en train d'en prendre au Québec, par exemple, en créant un nouveau programme d'éthique et culture religieuse qui va s'appliquer à toutes les cohortes de l'école. On croit que l'école va être un lieu où la culture politique, dans le savoir moral profond de la société, va pouvoir se recomposer. Moi, je suis très confiant. J'ai un optimisme considérable par rapport à ça. Je crois que c'est là que le travail de la différence va s'opérer et que donc le choix des formes de vie qui caractérisent la culture première, l'individu triomphant, le saint, l'artiste, etc., ça c'est toutes des choses que chacun peut faire comme il le veut. On vit dans une démocratie qui rend cette chose-là possible, une vraie liberté. Le choix des œuvres qu'on lit, le choix des réflexions, des choses qui nous donnent du sens, on peut le choisir. Mais la question de l'identité politique, du savoir moral fondamental, des droits, de la question de l'égalité, de la dignité des personnes, tout ce qui touche, en d'autres mots, les principes infrangibles sur lesquels notre société est construite, je crois que c'est quelque chose en quoi on doit investir. Et là, je rejoins le propos de Jacques, c'est-à-dire que je crois qu'on doit avoir une position qui est affirmative. Quand ce savoir est à disposition, on doit non seulement le faire fructifier en délibérant le plus possible, c'est-à-dire avoir des forums politiques d'une grande qualité, mais on doit aussi s'assurer de le transmettre. On ne peut pas juste le laisser à volo. Il faut donc que l'école fasse quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'en
déconfessionnalisant l'école, on aurait tort de laisser l'espace vide. Il faut le remplir, il faut mettre quelque chose, il faut que dans l'école, il y ait ce lieu où le savoir moral se réinvente et se transmet au fur et à mesure, parce que si nous avons des raisons communes d'exister, il faut, en commençant, comme le dit Hannah Arendt en parlant de la jeunesse, transmettre ses idéaux à la jeunesse. Et je répète les mots, je les cite de mémoire. Hannah Arendt dit aux jeunes, « Voici ce monde dans lequel tu t'apprêtes à entrer. Nous l'avons défini de cette manière, tu pourras le changer. » Ça, je crois que c'est une phrase très, très belle. Voilà, merci.
Alors, il y a quand même des idées communes autour de cette table. C'était intéressant de voir que tous et toutes, vous avez ramené cette idée de valeur commune à transmettre. Je crois que Monsieur Leroux est allé le plus loin en ciblant l'école pour le faire. Juste avant que nous passions à la salle, j'ai envie de vous demander... J'espère que vous ne tirez pas des roches. Qu'est-ce qu'il faut penser quand on vient d'entendre tout ce qu'on a entendu là, du projet de constitution pour encadrer les accommodements raisonnables que nous lance Mario Dumont? On va entendre ça beaucoup et c'est une idée politique de quelqu'un qui dit si on veut mettre des balises, il faut le faire avec la constitution. Est-ce que ça a du bon sens? Est-ce que c'est farfelu? Est-ce que on ne doit pas prêter plus d'attention qu'il faut à une suggestion de cet ordre-là. Monsieur Beauchemin, avez-vous quelque chose à...
Ben, je dirais simplement qu'on peut bien essayer d'inventer des mécanismes, des outils, mais ça ne servirait, à mon sens, qu'à noyer le poisson. Hein. C'est-à-dire qu'au fond, on est devant un enjeu de société qui... dépasse ou excède ce genre de mécanisme. La question qu'on doit se poser, ou la manière dont on doit se la poser, c'est précisément celle que nous adoptons ici aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, viser directement les enjeux fondamentaux de ce qui est devant nous. Alors, vous savez, rajouter du droit par-dessus du droit, je suis pas certain que ça permet de réduire le problème.
OK. Est-ce que vous voulez compléter, M. Leroux ou Tania? Bon,
moi, je dirais que non seulement je suis d'accord avec ce que vient de dire Jacques, mais nous avons déjà enchâssé dans nos constitutions des chartes qui sont sujettes à révision, qui portent ce savoir moral et qui ont eu comme conséquence, dans certains cas déplorables, l'accommodement raisonnable. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de préparer une constitution supplémentaire ou des articles. Il y a par ailleurs dans nos chartes certains articles qui font des problèmes, qui vont faire problème, en particulier l'article 42 de la Charte du Québec sur le droit à l'éducation religieuse. Alors ça, c'est
rappelez-nous
une discussion,
ça, oui, j'ai lu. Ouais.
Une question qu'on pourrait discuter, mais c'est pas un détail.
Non, c'est pas un détail. Moi, j'avais l'article 40. OK. Très bien, on parlera de ça une autre fois. Dernière chose avant d'aller dans la salle, il y a des chiffres épouvantables qui circulent ces jours-ci. Est-ce que on est trop timide à nommer ce que nous sommes et ce que nous voulons? Ou est-ce qu'au fond, un peu comme Tania, vous l'avez évoqué en parlant de, on est comme à une époque un peu adolescente de notre bouillonnement, est-ce qu'on est au fond perturbé et peut-être sans mots précis pour nommer ce qu'on est en train de devenir? C'est ça, c'est plus ça qui se passe. Karina, est-ce qu'on est trop timide si on est trop mêlé?
Je pense que c'est un mélange des deux, mais je pense que, et là je reviens à mon expérience personnelle, mais je pense que ça s'applique. On a souvent peur de dire qui on est et peur du rejet, et c'est le contraire qui se passe. Et moi, je l'ai constaté en étant en contact avec des gens de cultures, de religions différentes, de valeurs différentes. À partir du moment où j'ai décidé d'exprimer qui j'étais, tout à coup, le respect mutuel, l'égalité auquel on aspire tous s'établit. On est face à face, deux êtres humains, une majorité, une minorité qui expriment clairement qui ils sont. Et je pense qu'on on peut pas blâmer les gens de faire des demandes. Notre devoir et notre responsabilité, c'est de les évaluer et de pas acquiescer à toutes les demandes qui sont faites, parce que certaines sont déraisonnables.
Tania, voulez-vous rajouter quelque chose?
Oui, un petit quelque chose. Je trouve ça étonnant que, en fait, je lisais un article qui disait complètement le contraire, que les enfants d'immigrants, comme nous le sommes, ont plus de difficultés avec l'identité en termes de reconnaissance de notre identité. Par contre, je trouve que on est une génération que, parce qu'on a eu à choisir entre la culture d'un ou de nos parents et la culture dans laquelle on a évolué et grandi, c'est plus facile de s'assumer complètement comme étant d'une certaine culture. Alors, comme moi, je l'ai confronté à la culture grecque moderne, ma culture québécoise, j'ai dit, oh non, vraiment, c'est la culture québécoise. Moi, je l'adopte, je l'endosse entièrement, je pense qu'on est un peuple à part entière, distinct, tout ça. Et j'ai aucune difficulté à vivre. Peut-être que c'est plus difficile quand on a que soit à amener devant le monde puis dire ben non mais c'est ce que je suis parce que il y a une timidité peut-être effectivement une espèce de se dire ben est-ce que c'est légitime vraiment est-ce que je peux m'affirmer en tant que tel et en même temps je trouve que c'est un défaut mais c'est une très grande qualité aussi.
Merci beaucoup de ces précisions-là. Alors, c'est à vous. Vous avez deux micros. J'aimerais... Oups, monsieur, ne vous faites pas mal. J'aimerais vous entendre quand même. Vous n'êtes pas venu juste pour faire une tête. Vous avez réfléchi, hein, je suis sûre. Monsieur, nommez-vous, s'il vous plaît.
Marc Brière, du mouvement Démocratie Souveraineté.
Oui, monsieur Brière, je vous écoute.
J'ai été... ravi d'entendre les propos des quatre conférenciers avec lesquels je suis en total accord, sauf sur le point de la Constitution, et vous me permettrez d'en dire un mot, puisqu'il y a quelques années, j'ai fondé le Mouvement pour une nouvelle Constitution québécoise, connu sous l'acronyme Monocoque. D'abord, le titre de la conférence, à mon avis, est un peu mal choisi, parce que on parle de la culture québécoise au contact d'un pluralisme culturel et religieux. S'il y a pluralisme culturel, il y a donc plusieurs cultures québécoises. Alors justement, M. Leroux nous a fait part que, en définitive, ce dont on parle ici, c'est de la culture civique ou politique québécoise qui doit rassembler toutes les cultures, la culture majoritaire et les cultures minoritaires. Mais il ne faut pas occulter justement cette pluralité en affirmant tout simplement qu'il y a une culture québécoise et que les autres doivent s'écraser.
Non, je ne pense pas du tout que c'est l'esprit de cette rencontre.
Non, sur la Constitution. Justement, le besoin d'avoir une culture politique commune qui est en voie de formation, mais qui n'est pas acquise encore. Ce besoin-là fait ressortir cruellement la lacune, l'absence d'une constitution. Le peuple n'a jamais voté pour sa charte des droits. On le lui a donné d'en haut, les législateurs, n'est-ce pas? Le peuple ne s'est jamais donné une constitution définissant ses institutions. Or, le fait de nous donner cela serait un outil pédagogique considérable. Je termine là-dessus, madame. Par exemple, il y a pas personne dans une entreprise n'oserait dire que la convention collective de travail ne doit pas être à la portée de chaque travailleur qui puisse la mettre dans sa poche, la lire quand ça lui tente pour connaître ses droits. Or, une constitution, c'est la convention collective des citoyens.
Merci, Monsieur Bruyère. Je vais prendre l'autre question. Vous vous précipitez, les cégepiens, où êtes-vous? Au micro. Allez-y. Allez-y, monsieur, je vous écoute.
Oui.
Monsieur, nommez-vous. Merci.
J'ai pas suivi la joke, mais je...
Pardon?
Mon nom est Ali Aouchin. Je suis au Québec depuis 1973. Je suis passé un peu par toutes les... Je suis passé à l'Université Laval, l'Université de Montréal, à McGill, très brièvement à l'UQAM. Je lis Le Devoir, La Presse, La Gazette. Et déjà, la première des choses qui me surprend, en plus de 30 ans de vie au Québec, je n'ai jamais rencontré un autochtone. Je n'ai jamais entendu faire une conférence dans une université quelconque. Pourquoi?
La deuxième chose,
un autochtone, par exemple.
Ah oui, mais vous n'avez pas dû suivre les bons colloques.
Bon, mais il y en a. D'accord. En 30 ans, ça m'étonnerait que je fasse cette erreur-là. Pourquoi dans la Gazette, par exemple, on peut jamais lire quelque chose sur des artistes ou des trucs du Québec? Et pourquoi dans les journaux du Devoir, on peut jamais lire quoi que ce soit sur Leonard Cohen ou des icônes culturelles québécoises, ainsi de suite? Et il y a des tas d'interrogations comme ça qui déjà posent les problèmes. Donc, je vais venir un petit peu par rapport aux présentations.
Avez-vous une question, monsieur? Est-ce que vous avez une question? Non, c'est une observation?
Oui, des questions, mais qui sont reliées à des observations. Parce qu'ici, on parle, comme vous avez dit, et je considère ça comme des bavardages, tout ce qu'on discute actuellement sur la culture, etc. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un défi de connaissance dans ces questions-là que l'on ne se pose pas encore. Par exemple, quand M. Bouchemin a commencé à parler du nom de la sociologie et évoquer des raisons sociologiques, j'étais pas mal excité. Puis ensuite, quand il a réduit ça au droit, j'étais un peu déçu. Pourquoi? Parce que la raison, je crois, principale qui fait que l'on évoque ces questions aujourd'hui, c'est que le Québécois, le Québec, ne fait plus d'enfants. Il y a une naissance d'une angoisse existentielle. Et la réponse de cette angoisse existentielle fait qu'on a peur et on se pose des questions. Et ce qui est parfois grave dans ce genre de considération, c'est que les dérives, par manque de connaissance, de formation de ces questions-là, et justement, déjà ma lecture de Fernand Dumont avec M. Duroux est totalement différente, comment on peut s'attaquer à ces questions qui dépassent la structure, le droit, les institutions, etc.
Je vais vous demander de poser votre question parce qu'on va vous perdre.
Les questions de l'imaginaire, les questions de la communion dans le souvenir historique. Pour moi, qui suis Québécois intégré citoyen, pour moi, Papineau ne sera jamais que le nom d'une rue.
Ah, donc on a un problème avec la transmission, voilà, c'est ce que vous dites.
Et ma fille, elle est née ici, elle a été socialisée à Passe-Carreau, Passe-Montagne.
Elle est déjà. Ils n'ont pas parlé de Madame Papineau ni de Monsieur Papineau.
Voilà. Et peut-être qu'il n'est pas désirable qu'elle soit québécoise à 100%, à 80% seulement, parce que 20% c'est là où elle négocie la rencontre. On voit que les choses sont plus complexes qu'on a d'habitude de la manière de les traiter. Voilà.
Je vous remercie. Je vais prendre peut-être une réponse. Est-ce que Monsieur Leroux, vous aimeriez réagir à ces deux questions, ces deux observations, celle sur la nécessité d'une constitution et de notre problème avec la transmission de valeurs communes et au fond des murs, entre guillemets, qu'il y a entre certaines communautés?
Je peux dire un mot, mais j'ai pas d'opinion particulièrement fondée sur ça. Sur la question de l'adoption d'une constitution, il est sûr que dans une perspective souverainiste, c'est un geste essentiel. La revue Conjoncture a fait une année, peut-être M. Brière, vous savez, un numéro où les intervenants ont été appelés à rédiger une constitution pour le Québec. Mm-hmm. Et bon, à ma connaissance, un exercice rare que celui-là. Et vous avez parfaitement raison de dire que sur le plan politique, c'est un geste qui aurait des conséquences très considérables. Donc ça, je vous suis entièrement. En attendant, on a celle qu'on a, et pour gérer les problèmes au quotidien, on doit travailler avec, parce que elle peut et doit évoluer. C'est pas facile, mais elle peut et doit évoluer. Sur la question du récit national et de l'enseignement de l'histoire auquel vous faites allusion, je crois que vous avez raison là-dessus. Ça fait partie des raisons communes. Et il y aurait beaucoup à dire sur la très mauvaise conjonction. Disons que je le dis très, très rapidement pour bien voir que je comprends votre question. Nous sommes dans une situation très difficile dans le moment parce que l'abrogation des clauses dérogatoires qui a donné lieu à la libération du cours éthique et culture religieuse, qui va donc être un lieu très civique dans l'école et très important, a été faite par un ministre courageux, il faut le saluer, le ministre Fournier, on ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse, mais il l'a faite au moment où il avait déjà
dans l'année ou les deux années précédentes, confier l'éducation à la citoyenneté au programme d'histoire. Mmh. Alors, c'est vraiment une conjoncture qui n'est pas formidable, parce que il aurait été d'emblée préférable que cette finalité civique soit dans un lieu unique dans l'école. Dans le moment, elle est traitée comme un parent pauvre par les historiens et avec raison, et les gens qui vont faire éthique et culture religieuse, on doit le prévoir, ne pourront pas éviter d'aller sur le terrain de la citoyenneté. C'est l'enjeu central. Mmh. Alors, donc, là il y a un problème. Mais je suis très, très sensible à la question que vous posez et aux apories que vous mentionnez.
Merci beaucoup. Alors, je vais prendre ces questions en rafale, rapidement, parce que dans 5 minutes, Michel Venn va nous dire bonjour et résumer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Allez-y, madame, nommez-vous et rapidement.
Mon nom, c'est Céline Boucher. Moi, c'est Monsieur Leroux qui m'a amené une réflexion que j'avais déjà amorcée, parce que comme c'est déjà dans le discours de tout le monde ces temps-ci, c'était: comment transporter ce débat de fond dans la réalité rurale? Parce que on parle beaucoup, c'est un phénomène qui est très urbain quand même, le pluralisme culturel et religieux. Juste rapidement, j'ai vécu 10 ans dans un petit village gaspésien que j'ai quitté dernièrement. Et je me rends compte de plus en plus que ce discours-là, là-bas, c'est pas, ça se passe pas, ça. Les gens n'ont pas ce contact-là avec ce pluralisme culturel et religieux. Le contact qu'ils ont avec ça, c'est un contact qui vient des médias.
Médiatique.
C'est médiatisé et souvent, c'est déformé. Et c'est souvent par les nouvelles, c'est souvent tragique, c'est souvent catastrophique. Et c'est jamais. Et l'éthique et les cours, les nouveaux cours qu'il va y avoir dans les écoles, l'éthique et l'histoire des cultures religieuses, c'est déjà un beau pas pour amener ce questionnement-là dans les écoles. Et l'autre chose, c'est que ça va prendre au moins une génération d'enseignants avant que ça commence à faire un effet différent, parce que souvent l'église, c'est le lieu communautaire, c'est la place que les gens se retrouvent, et l'église, ça reste toujours le catholique dans les régions éloignées. Voilà.
Je vous rappelle que le rendez-vous stratégique sur la culture se rend jusqu'en Gaspésie.
J'y participe d'ailleurs en tant que panéliste.
C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup, madame. Là, je vous avais dit que je prenais que ces 4-là. Là, j'ai l'air vraiment, parce qu'il nous reste 5 minutes, mais je vais les faire, on va toutes les faire rapidement, en rafale. Alors, OK, on alterne, les amis. Allez-y, à droite. Oh, vous étiez là, mais vous avez fait semblant de vous asseoir. Ah, vous étiez assis.
On était assis sur les escaliers.
Excusez-moi, je ne vous ai pas vu comme attendant. C'est mon erreur. Allez-y, monsieur. C'est à vous. Okay, c'est à vous. Nommez-vous.
Alors, je m'appelle Jérémy Drouillard.
Bonjour.
Je viens du Cégep Vanier.
Écoutez, vous avez entraîné votre fan club, parce que je vois.
Écoutez, s'il vous plaît, je vais essayer d'être très vite, bref et concis, mais ça marchera pas. c'est parce que nous, on vient de l'INM, là, l'école qu'on vient juste de faire sur la diversité culturelle, et on parle beaucoup de ces divers enjeux depuis les dernières 2 jours, durant les derniers 2 jours. Puis, je vous demanderais d'être indulgent. Je trouve que ça marche vraiment pas d'avoir juste 5 minutes pour nous tous. Surtout,
je sais, mais...
surtout que maintenant, que on s'est parlé, nous, à l'école de INM, puis il y a une des choses qui est ressortie, c'est que la population, la société veut entendre la voix des jeunes. Mais on est tous ici, mais on n'a pas la chance de parler.
Alors. C'est tellement bien demandé que je vais vous donner 5 minutes de plus.
Merci beaucoup, c'est exactement ce que j'ai besoin. Alors.
Pas juste pour vous, c'est à partager.
Voilà. Je vais essayer de l'aller le plus vite possible. Merci. OK, alors, on a parlé de 2 grandes visions, la création d'un nouveau tout avec les plus grands.
Attendez, là, j'ai rien compris. Okay,
il y a la vision. Prenez des notes, s'il vous plaît. Hein.
Ben, je fais rien que ça dans
la vie. Il y a la création d'un nouveau grand tout avec l'ensemble des petites parties, mais aussi l'aménager de façon efficace et positive l'aménagement d'une cohabitation, d'une mosaïque d'identité et de culture. Moi, je vais répéter qu'est-ce que je dis à l'ensemble des Cégepiens. Je vais le répéter à l'ensemble de la citoyenneté ici, puisque moi, j'ai des ancêtres indiens, j'ai des ancêtres autochtones du peuple métis, j'ai des ancêtres français de France. Mes parents biologiques sont anglo-antillais et franco-ontariens. Moi, je suis né au Québec. Je suis québécois. Je suis totalement anglophone, totalement francophone, totalement québécois, totalement canadien.
Quelle personnalité complexe et intéressante.
Exactement. Alors, je suis la diversité en chair
incarnée.
En chair et en os. Merci. OK.
Avez-vous une question, monsieur?
Oui, j'ai beaucoup d'observations et de commentaires et de questions, comme l'autre l'avait avant. Mais bon, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Prenez ça en note, c'est vraiment important. Je suis vraiment sérieux. OK, si on a décidé d'accepter de s'éduquer sur le pluralisme culturel et religieux, c'est parce qu'on a décidé d'écouter et de prendre en compte les minorités. Sinon, la majorité est dominante, puis elle va toute uniformiser. Alors, puis elle va être unique, puis dans cette optique-là, il n'y aura plus de pluralisme. Alors, un peu avec ce que M. Georges Leroux avait dit, qu'il faut créer une culture politique commune. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi, c'est comme une culture civique aussi. Moi, je suis très engagé dans ma communauté, puis un peu à l'école, puis un peu partout. Mais cette uniformité civique-là, si elle ne tient pas compte des minorités et tout, ça va créer une uniformité qui va créer un désillusionnement et un manque de créativité, un manque d'évolution culturelle et un manque de diversité, puis aussi un manque d'une diversité vivante et différente aussi. OK, j'ai aussi beaucoup d'autres interventions.
Oui, mais vous pouvez pas me faire la synthèse.
Est-ce que je peux faire ma synthèse, puis vous la donner un autre jour?
Mais Michel va être ravi de l'attraper. Il y a quelqu'un qui va faire de toute façon la synthèse.
OK, j'ai une autre chose que la comédienne avait abordée. OK, elle avait parlé.
S'il vous plaît.
OK, de lutter, puis d'enrayer, puis de contrer les orthodoxies religieuses. N'est-ce pas un préjugé de vouloir, à travers l'ignorance, de vouloir abolir une division du monde? Parce que moi, dans le peuple autochtone, la mythe de la création, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui fait rapport à l'intégrité d'un peuple. Puis vouloir l'abolir, je ne sais pas d'où ça vient. Oui, il y a des personnes aux États-Unis qui croient à ça, il y a des personnes au Québec qui croient à ça. Puis je sais qu'il y a beaucoup des églises évangéliques au Québec qui croient à ça. Il y a un article dans le centre de documentation qui parlait de... la croissance de l'Église évangélique au Québec. Alors, je voudrais bien que la documentariste puisse faire une recherche là-dessus. Alors, merci, je vais me fermer la gueule, puis je m'en vais. Puis...
Bon, merci beaucoup. Alors, il y avait deux éléments, et je pense que, M. Leroux, vous allez peut-être faire un petit point. Et le deuxième point qui était pour toi, c'est pourquoi le créationnisme était important.
Sur le plan de la culture civique commune, c'est un registre où il ne peut pas y avoir de minorité, de majorité. C'est ce qui le distingue des autres. La majorité et la minorité, c'est ce qui sépare des traditions, des croyances, des modes de vie, des représentations, des répertoires de référence. Là, il peut y avoir des majorités et des minorités. Mais sur le plan civique, il ne peut pas y en avoir.
Le créationnisme.
J'ai pas compris.
Parce que
la question
de monsieur, c'était les populations autochtones ont ça à cœur, on a une vision du monde particulière.
Absolument, qui est transmise par la religion et c'est là que ça se passe.
OK. Monsieur, allez-y, nommez-vous.
Mon nom est Michael Naffy, je suis de Toronto, mais comme vous le voyez, je parle français et j'ai vécu très longtemps au Québec et je suis doctorant en philosophie politique à l'Université de Paris, même si j'habite au Québec. Donc voilà. Ce que je voulais dire, je voulais intervenir juste sur deux points. Le premier, c'est sur l'accommodement raisonnable, et le deuxième, sur la question de l'histoire qu'on a beaucoup évoqué ici. Sur l'accommodement raisonnable, c'est un peu dommage qu'on ne le rappelle pas ce que ça veut dire, parce qu'il y a énormément de fantasmes par rapport à cela. L'accommodement raisonnable est un principe, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans la Constitution, c'est simplement un principe, donc c'est un mouvement, l'accommodement raisonnable, qui découle du principe lui-même de l'égalité, et qui dit simplement la chose suivante, je le rappelle en 30 secondes, qui dit qu'une règle qui s'applique à la majorité doit être adaptée pour répondre à des besoins spécifiques, pour éviter la discrimination. Mais ça ne veut pas dire que n'importe qui peut venir avec n'importe quoi pour demander n'importe quoi et qu'on doit dire oui. C'est dans le sens inverse. C'est une règle de la majorité qui s'applique à la majorité que l'on adapte à la minorité. C'est très important, je pense, de rappeler. Ça évite beaucoup de fantasmes par rapport à ça. Mm-hmm. Donc c'est un premier point. Deuxième point, c'est l'histoire. Alors, je rejoins un peu ce que vous avez dit au départ. Et j'ai eu quelques préoccupations, en fait, la façon dont vous avez présenté ça, et j'étais plutôt d'accord avec Monsieur Leroux, peut-être déformation professionnelle, puisque je suis moi-même en philosophie. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à l'histoire, effectivement, les Québécois ne sont pas eux-mêmes en mesure, puisque eux-mêmes luttent avec leur propre histoire, leur propre tradition, etc., ils ne sont pas en mesure de créer une espèce de berceau dans lequel viendraient se poser les nouveaux arrivants qui seraient définis au départ, etc. Et je suis sûr que c'est pas ça que vous vouliez dire. Mais la façon dont vous l'avez un petit peu présenté, j'ai eu cette impression. Mais une chose importante par rapport à l'histoire, c'est que dans l'enseignement de l'histoire, ce qu'il est important aussi de donner, c'est comment est-ce que les questions qui préoccupent d'égalité, etc., de tolérance, etc., comment elles se sont articulées dans les différentes traditions. Et moi, ce qui me frappe, parce que je fais une thèse sur l'islam, ce que je veux dire, c'est que effectivement, l'islam, il faut le dire, c'est la minorité qui pose le plus de problèmes, on va dire. C'est celle qui pose le plus de défis, pas problème dans un sens. Et ce que je veux dire, c'est que si on se donnait la peine d'examiner cette longue histoire des musulmans, de voir comment est-ce que l'égalité, toutes ces questions qui nous préoccupent, se sont articulées dans cette histoire-là, on s'apercevrait que finalement, ce ne sont pas des traditions éloignées. L'islam aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tendance, on a l'impression qu'on a beaucoup plus facilement intégré les autres minorités qui sont venues là, les Polonais, les Portugais, etc., parce qu'ils avaient un héritage commun. Mais pour les musulmans, il faut peut-être faut aller un petit peu plus loin dans l'histoire. Mais il faut rappeler que l'islam, c'est une culture qui a toujours été en contact dans son histoire avec l'Occident. Il y a un héritage commun, l'héritage grec, etc. Donc dans l'enseignement de l'histoire, il y a pas simplement de raconter les histoires, mais il y a de se dire comment, dans ces différentes traditions, s'articulent ces questions d'égalité, etc., etc. Voilà.
Merci. Voulez-vous y répondre, Monsieur Bouchemin? Non? Moi, j'avais retenu le train plus que le berceau, mais...
Évidemment, je suis parfaitement d'accord avec monsieur. Quand on parle d'histoire ou de tradition, à quoi renvoie-t-on? On renvoie pas à ce fait élémentaire qui consisterait à rappeler des événements ou des héros, par exemple. Une histoire nationale ou une histoire commune, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire de nos débats et de nos manières de poser nos différends et de les débattre. Alors, dans le cas de l'histoire du Québec, par exemple, il est assez clair, c'est difficilement contestable, je crois, qu'une grande partie du vaste débat qui a cours depuis deux siècles porte sur les conditions d'existence d'une collectivité en situation minoritaire en Amérique, par exemple. Hein, c'est quelque chose qui appartient à l'histoire du Québec et qui surdétermine notre façon de poser les enjeux qui nous concernent. Alors, l'histoire du Québec, c'est quelque chose qui se joue dans cet espace-là. Et évidemment, dans cet espace-là, surgissent des thèmes particuliers qui sont liés à des particularités de la situation du Québec.
Merci. Madame, bonjour. Nommez-vous.
Bonjour. Je m'appelle Émilie Lacroix. Je suis étudiante au cégep Beauce-Appalaches en Beauce à Saint-Georges. Et puis, j'ai remarqué que dans les pistes de solutions proposées, il y avait celle... On mise beaucoup sur le programme d'éthique, culture et religion. Puis, je remarque aussi que ces dernières années, tout repose beaucoup sur l'école. Puis souvent, quand ça marche pas, c'est de la faute de l'école. Ma mère est institutrice, donc tout repose sur le dos de l'école. Puis je vois en ça une espèce de... les gens, ils se déresponsabilisent de leur responsabilité citoyenne, dans le fond. Puis c'est bien qu'il y ait des événements comme ça, mais c'est toujours une minorité qui vont y participer. Puis je me demandais, étant donné que c'est pas juste la minorité qui fait un pays, mais la majorité, comment on fait pour aller chercher la majorité, puis leur faire comprendre qu'eux sont là-dedans, puis qu'ils ont leur mot à dire? Puis comment aller, tu sais, comme au cégep, par exemple, tout simplement, comment aller chercher les gens, les impliquer dans les projets qu'on monte, puis tout ça, sur la citoyenneté, puis faire des débats comme ça, tout ça, attirer les gens?
C'est une vaste question et c'est un peu l'expertise qui est en train de prendre l'Institut du Nouveau Monde. Alors peut-être que Michel va en toucher un mot à la fin, mais je vous remercie de votre question. Madame, allez-y.
Bonjour, je suis Marie Desroches, artiste en arts visuels.
Bonjour, Madame Desroches. Bonjour.
On a discuté de la question, une de mes amies puis moi, en brunchant pendant tout l'après-midi. Alors on s'est préparé.
Chanceuse.
Oui.
Oui. Après 40 ans de travail, on a le droit d'être à notre retraite. Absolument. Puis qu'on a tout payé. Puis on travaillait sans syndicat et avec syndicat à ce moment-là. Donc,
alors, j'ai le droit votre discussion de ce matin.
Bon, pour la discussion de ce matin, j'avais beaucoup, beaucoup à dire. J'aimerais vous écrire aussi, mais il y a deux choses. Madame Gauma puis Monsieur Leroux ont dit deux choses, moi, dont je m'attendais pas de parler du tout, là. C'est que je trouve ça bien, c'est du nouveau, là, que je vais vous dire. Monsieur Leroux a parlé de la société de, contemporaine, avec l'argent, puis le néolibéralisme, et puis
la mondialisation.
La mondialisation. Puis Madame Gauma a dit, c'est à nous, les gens ont le droit de faire des demandes. C'est à nous de dire non. Ce qui m'amène à dire que nous sommes un peuple adolescent, que pas seulement qu'au Québec, mais je pense qu'un peu partout, nous sommes des adolescents qui ne sont pas capables de dire non à nos enfants et qu'on n'est pas capable de dire non aux communautés culturelles dans les demandes exagérées aussi. Alors, je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir sur notre maturité collective.
C'est parfait. Ça. Merci, madame.
Voulez-vous répondre à ça, quelqu'un?
Mais moi, j'ai Tania, un petit truc que j'aimerais qui répond plus à l'intervention précédente.
De Mme
comment
Lacroix?
On fait pour amener les gens dans ce débat-là et tout? Je pense qu'il faut faire confiance que les idées, c'est un peu comme des organismes vivants. À partir du moment où elles se mettent à exister, elles veulent exister et elles se transmettent. Et il faut faire confiance que même les minorités qui se rencontrent, les petits groupes restreints qui y réfléchissent, ben, éventuellement, c'est contagieux.
Merci. Madame, allez-y.
Bonjour, je m'appelle Sylvie Tanguay. Je voudrais d'abord vous remercier pour la qualité de vos interventions. Vous avez fait d'un sujet qui était désagréable ces jours-ci, un projet positif, franchement, quelque chose qui nous encourage à continuer la réflexion. Ouais.
C'est votre salaire.
J'aimerais savoir, selon vous, est-ce qu'on est capable de dépasser notre propre problème identitaire? Dans le sens que si on vote fédéraliste au provincial, puis indépendantiste au fédéral, c'est difficile un peu pour les gens qui arrivent de se faire une idée de ce qu'on veut, puisqu'on ne sait pas nous-autres mêmes. On est comme on est comme le baba au rhum des Amériques. C'est compliqué le dossier. On doit regarder ce qui se passe un peu ailleurs pour comprendre, pour se faire une idée. Il n'y a pas d'exemple dans le monde présentement de ce que l'on vit. Et comme vous disiez, on est 7 millions, il y a peut-être moyen de trouver une solution. Nos artistes font le tour de la planète, on a des sommités dans tous les domaines. J'imagine qu'il y a moyen de trouver des solutions. Puis on n'est pas juste 7 millions, quelque part, comme quelqu'un le mentionnait, ça touche pas les régions. On est une couple de millions à Montréal à devoir gérer ces problèmes-là et à vivre dans le quotidien ces choses-là. Ma question, c'est, est-ce que la réflexion de l'INM va être un instrument qui pourrait influencer les juristes qui interprètent présentement les chartes des droits? C'était ça ma question primordiale. Parfait. Puis je voulais me situer aussi dans le monde. On est présentement en guerre, puis veut, veut pas, ça influence notre façon de voir les choses. Quand on regarde pourquoi on est en guerre là-bas, les causes de ces guerres-là, on se dit qu'on veut pas reproduire ça ici. Des systèmes qui ne fonctionnent pas là-bas, on veut pas nécessairement les faire implanter ici. Merci beaucoup.
Parfait, merci madame. Madame, vous aurez le mot de la fin de la salle.
Merci beaucoup. Je voulais d'abord remercier...
Vous êtes madame?
Geneviève Bois, pardon.
Marie-Josée?
Geneviève Bois, tu connais
Geneviève
Bois, c'est fait, oui. Je voulais d'abord remercier Monsieur Beauchemin pour avoir rappelé que on pouvait monter dans le train en marche de l'histoire, parce que je suis très triste quand je vois que beaucoup de personnes pensent qu'il faut avoir une histoire, toute notre histoire, en commun pour pouvoir vivre ensemble, alors que d'avoir simplement des référentiels communs, d'avoir simplement quelques idées communes, c'est suffisant pour vivre ensemble, égaux et différents, comme on en parlait, à mon avis. Mais j'aurais une question, j'ai l'impression, je ne sais pas quel panéliste pourrait me répondre, mais j'ai l'impression que les Québécois, beaucoup de Québécois d'origine canadienne-française, d'origine canadienne-anglaise, ont peur. Ils ont peur parce qu'ils sont déjà pas trop sûrs de qui ils sont, parce qu'ils sont pas trop sûrs de qui ils veulent devenir, puis je pense que ma collègue vient de poser une question, l'a abordée, et puis face à ça, ils savent pas comment réagir au fait qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, ils savent pas comment se positionner, et puis ça donne fort malheureusement des réactions d'intolérance, des réactions parfois de racisme, et puis c'est pas acceptable, mais c'est quand même compréhensible dans le contexte. Je voudrais demander si un panéliste qui pourrait me dire comment est-ce qu'on peut aider les gens à arrêter d'avoir peur?
Ceci est tout un débat. Merci beaucoup, Madame Bois. Lequel d'entre vous? Monsieur Beauchemin, en 10 secondes.
Je pense que vous désignez le tragique qui est au fond de l'âme québécoise. Le Québec forme une société, c'est une société minoritaire. Hein? Le vécu collectif québécois est un vécu de minoritaire. Et ce que ça veut dire, c'est des choses positives et négatives. Positives d'abord, parce que ce vécu minoritaire-là, à mon sens, je peux me tromper, a eu pour effet de faire des Québécois et du Québec une société particulièrement ouverte, particulièrement sensible aux situations minoritaires. Quand on dit que c'est au Québec qu'on trouve le meilleur accueil, par exemple, à des revendications de droits portées par des groupes aussi divers que variés, c'est vrai, et à mon sens, ça renvoie précisément à cet apprentissage très long qui nous vient de très loin, d'une situation minoritaire. Et puis, en même temps, je pense que c'est vrai de dire que cette même situation-là engendre aussi peur et angoisse. C'est-à-dire que c'est le tragique québécois. On n'est pas ici en face d'une société qui, mon Dieu, se lève avec la même assurance que les grandes sociétés peuvent le faire, hein, que les grandes nations peuvent le faire, pour parler comme François-Xavier Garneau au 19e siècle, hein, qui disait aux Canadiens français, « Laissez les grands peuples faire l'histoire, ils se meuvent dans leurs orbites spacieuses. » Ce n'est pas le cas, ce n'est pas le vécu québécois. Et peur, angoisse, inquiétude font partie de ce legs, appartiennent justement à l'histoire dont on parlait tantôt. Hein, il y a un fond dans l'histoire du Québec qui est fait de cette angoisse-là.
Sur ces paroles historiques, je vais remercier en votre nom nos quatre invités d'aujourd'hui, Monsieur Jacques Beauchemin, Madame Karina Goma, Madame Tania Contoyani et Monsieur Georges Leroux. Nous avons débordé de 10 minutes. Pas tout à fait, mais je veux absolument vous présenter le directeur général de l'Institut du Nouveau Monde, Monsieur Michel Venn.
Alors bonjour, ça fait toujours plaisir de voir cette salle presque pleine chaque fois que nous organisons un débat midi. C'est la preuve qu'il y a au Québec des citoyens, il y en a beaucoup plus qu'on pense, qui s'intéressent, mais au fond des choses. Et qui sont peut-être déçus parfois de la manière dont les débats ont été jusqu'à présent sur certains sujets complexes en particulier, menés dans l'univers médiatique ou dans l'univers public. Nous essayons à notre mesure de fournir des espaces de débat qui nous permettent une réflexion plus profonde, une documentation meilleure et des conditions plus favorables à un échange véritable sur le fond des choses. Je voudrais à mon tour remercier nos panélistes. C'est vrai, je trouve que, madame, j'ai oublié votre nom, mais c'est vrai qu'ils ont fait d'un sujet désagréable un projet positif. Et c'est ce à quoi Céline Saint-Pierre tout à l'heure vous conviait, poursuivre sur cette voie d'un projet positif, au fond, cette discussion sur ce que nous appelons la culture québécoise. C'est vrai que quand on dit culture québécoise, il y en a qui pourraient vouloir mettre un S, mais en même temps, je vais y revenir, je pense que nous avons aussi raison d'en parler au singulier. Très difficile de faire une synthèse d'un débat sur un sujet comme celui-ci, mais je vais essayer de relever 4 ou 5 idées qui sont ressorties, me semble-t-il, de nos échanges ce midi, en particulier des interventions de nos panélistes. La première, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche quand on parle de culture? On cherche les conditions qui nous permettent de vivre ensemble. On a parlé d'un tout signifiant, d'un monde commun, de raisons communes, d'un récit historique, toujours en évolution, d'un train en marche que l'on peut prendre à tout moment. Mais donc, ce que l'on recherche, ce sont les conditions, ce sont les éléments qui nous permettent de vivre ensemble. Et d'ailleurs, j'ai été un peu surpris, étonné, mais à la fois ravi, d'une certaine façon, d'entendre Madame Contoyani nous dire que ce tout signifiant, ce monde commun, que ces repères finalement qui nous aident à vivre ensemble, sont peut-être plus facilement repérables qu'on le pense, puisqu'elle nous dit qu'il s'agit de vivre un petit peu au Québec, pas si longtemps, pour spontanément partager ou découvrir de quoi est fait ce tronc commun. Évidemment, ce midi, nous n'avons pas défini de quoi est fait ce tronc commun. Il y a des choses qui peuvent nous venir à l'esprit assez spontanément par ailleurs. Le fait que nous vivions dans une société laïque et pluraliste, c'est un choix qui a été fait il y a un certain nombre d'années au Québec, qui peut être remis en question éventuellement, mais pour le moment, c'est un choix qui a été fait. Le fait que nous nous soyons dotés d'un État-providence, le fait que nous ayons décidé de miser sur certaines formes de décentralisation dans l'organisation sociale et économique de notre société. On pourrait comme ça, le fait aussi que nous soyons une société qui est réputée être hédoniste, on pourrait en repérer comme ça un certain nombre d'éléments de ce tronc commun et ça pourrait être un exercice intéressant. On se rendrait compte aussi que sur certaines de ces questions, nous vivons encore aujourd'hui des tensions importantes sur ces choix qui ont été faits il y a un certain nombre d'années. J'ai mentionné l'État-providence. Actuellement, il est contesté de toutes parts. Mais néanmoins, il existe des éléments de tronc commun. Et c'est vrai que peut-être que si nous ne nous aventurons pas dans l'exercice de le définir, c'est peut-être parce qu'on le ressent spontanément. Peut-être que ce que nous identifions comme un problème ou une crise identitaire n'est pas aussi profond que l'intensité des débats récents le laisse croire. Peut-être, bien qu'on aime dire que nous soyons une société vulnérable, peut-être sommes-nous plus solides que nous le croyons. J'ose avoir cet espoir. On a dit que ce tronc commun, ces raisons communes, ce tout signifiant, au fond, est un train en marche, hein, donc en évolution. Et je pense que Georges Leroux a bien montré ce que nous croyons avoir en commun, ce qui fait notre culture, et c'est pas propre au Québec, c'est sans doute vrai ailleurs dans le monde, vit actuellement une période de turbulence, de contestation, un peu partout. Je pense qu'il a bien montré aussi que ce pluralisme dans lequel nous vivons aujourd'hui est là pour rester, que les cultures premières ou les cultures secondes vont se côtoyer au sein d'une même société. Et j'irai pas plus loin là-dessus puisqu'il l'a déjà très bien fait et mieux que je pourrais le faire. Alors, qu'est-ce qui va nous réunir? Qu'est-ce qui nous aidera désormais à vivre ensemble? C'est certainement une culture. Et c'est pour ça que je dis que la culture québécoise, on peut en parler aussi au singulier. Et Georges Leroux suggérait, au fond, que cette culture, ce soit la culture que l'on dit politique, la culture civique. Cette culture politique, elle est déjà d'ailleurs codifiée. Elle est déjà codifiée dans des chartes. Elle est déjà codifiée dans la Constitution canadienne, de laquelle fait partie la Constitution québécoise et de l'ensemble de lois que nous nous sommes données, mais aussi des traditions et des comportements que nous partagerons et que nous transmettons à nos enfants, quand on en a, évidemment, ou aux enfants de nos voisins, aux générations qui nous suivent. On peut transmettre comme parents, mais aussi comme enseignants, ou simplement comme mentor dans une entreprise. On transmet. On transmet peut-être à moins d'enfants, proportionnellement qu'autrefois, mais il est faux de dire que la population québécoise ne se renouvelle pas du tout. Elle se renouvelle d'ailleurs en partie par la natalité, mais aussi en partie par l'immigration. Et bien que ce soit vrai, comme le disait Georges Leroux, que notre culture, que notre façon de vivre serait bouleversée, même s'il n'y avait pas d'immigrants à Montréal, il n'en demeure pas moins que, à cause du fait que nous comptons en partie sur l'immigration pour nous renouveler et nous enrichir, nous avons la responsabilité, évidemment, de tenir compte de la diversité qu'apporte avec elle cette immigration. Mais tout ça pour dire, donc, que ce qui risque de nous réunir, c'est une culture dite politique, civique, qui est déjà codifiée. On a eu un début de débat là, tout à l'heure sur la question de savoir si nous devions adopter une nouvelle constitution. Je l'ai dit, nous en avons déjà une, plus ou moins. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est que lorsque la Charte québécoise des droits et libertés de la personne a été adoptée en 1975, elle a été adoptée relativement dans l'indifférence de la population en général. La Charte canadienne des droits et libertés a été adoptée à l'occasion d'un drame historique qui a été le rapatriement unilatéral de la Constitution. La Charte canadienne est devenue, dans l'ensemble du Canada, un élément de l'identité nouvelle du Canada. Ça n'est pas été le cas au Québec. C'est qu'on n'en a presque pas parlé au moment où nous l'avons adoptée. Et que récemment, il y a 2 ans, la Commission des droits de la personne a lancé un exercice de réflexion sur des modifications que nous pourrions faire à la Charte, une mise à jour que nous pourrions faire à notre Charte, dans l'indifférence la plus totale. Il n'y a pas eu une page de journal remplie là-dessus, à quelques exceptions près. Donc, nous avons des instruments dont on se les est pas appropriés comme citoyens. Et sans doute que c'est l'une des choses qui nous rend faibles ou vulnérables lorsque l'on parle de ce qui nous rassemble. Parce que les valeurs communes dont on parle depuis tout à l'heure, elles sont couchées sur papier. Elles ont été adoptées par notre Assemblée nationale. Cela étant dit, si c'est la culture politique qui va nous réunir, il va de soi, et Jacques Beauchemin l'a bien exprimé, que la majorité franco-québécoise va forcément peser de son poids dans les délibérations qui vont mener à la définition de cette culture, qui est une délibération permanente. On peut pas dire, aujourd'hui, là, on délibère de ce qu'est notre culture. Parce que, au fond, c'est la délibération permanente sur l'ensemble des lois que nous adoptons, sur l'ensemble des règles que nous nous donnons. Lorsqu'on décide d'adopter une loi sur l'équité salariale, c'est un élément de notre culture commune que nous codifions et que nous mettons en œuvre, c'est-à-dire l'égalité entre les hommes et les femmes. La loi sur l'équité est un moyen parmi d'autres. Donc, c'est une délibération qui est permanente et forcément, la majorité va peser de son poids. Elle a un droit, elle a un devoir, et c'est surtout le mot « devoir » au fond que je retiens et que je traduis par « responsabilité ». Et c'est à cette responsabilité, finalement, que l'on convie les gens à participer à des exercices comme celui d'aujourd'hui ou de notre rendez-vous stratégique. Et c'est à ce genre de responsabilité que les institutions démocratiques officielles devraient convier les citoyens de façon beaucoup plus insistante et donc se modifier elles-mêmes. Cela étant dit, il y aura toujours des obstacles à cette délibération. Et c'est drôle parce que ce que Karina Goma évoquait comme obstacle dans le débat actuel sur l'accommodement raisonnable et les relations interculturelles, c'est le même genre d'obstacle auquel on sera toujours confronté dans la délibération civique ou politique. D'abord, l'ignorance sous toutes ses formes et de toutes sortes de choses. La tentation de la rectitude politique, c'est-à-dire de se cacher derrière des tabous ou des préjugés, c'est encore pire. Il y a 2 autres choses auxquelles on est confronté lorsqu'on convie les gens à la délibération permanente. C'est le sentiment d'impuissance, c'est-à-dire d'avoir aucune capacité d'impact, et c'est le sentiment d'incompétence, c'est-à-dire d'avoir rien à dire sur des grands sujets complexes puisqu'il y a des experts pour s'en occuper. Je pense qu'il y a un changement culturel à opérer dans notre population à cet égard. Nous avons tous des compétences, mais surtout, on peut encore en acquérir sur des sujets complexes pour ensuite délibérer et décider ensemble ce qui est bon pour nous, quelles sont nos raisons communes. Quant au sentiment d'impuissance, forcément, il s'avère lorsqu'on reste assis chez soi. Je voudrais donc terminer en vous conviant à participer au débat que nous lançons et que Céline Saint-Pierre a décrit très bien tout à l'heure sur l'avenir de notre culture. Est-ce qu'on finira par conclure que nous parlons d'une culture politique, d'une culture civique, d'une culture tout court? Enfin, bref, ce sera à vous, comme participants à ce grand échange, de nous le dire et ce sera à nous, l'INM, de chercher à influencer non seulement les juristes qui interprètent les chartes, mais à influencer, au fond, l'ensemble de nos concitoyens, en espérant que tous et toutes aient envie de participer à cette délibération permanente de laquelle naîtra notre culture commune. Merci à tout le monde.
Prochaine. C'est très bien.